Balado, Cégep de Sainte-Foy. Animé par Denis Dubois. Produit par le Carrefour Conseil avec la collaboration de l'équipe psychosociale. Bienvenue dans La santé mentale décryptée. décembre 2020, déjà le mois de décembre qui avance. Bienvenue à cette émission Tête à tête. Vous êtes en compagnie de Denis Dubois, coordonnateur aux affaires étudiantes, et qui a le plaisir de recevoir dans ce Tête à tête aujourd'hui Sébastien Guy, psychologue au Cégep. Bon midi, Sébastien.
Merci, Danny. Bon midi à toi aussi. Bon midi à tout le monde qui nous écoute.
Sébastien, on avait fait un premier bout d'émission l'autre fois sur le stress. C'était la première de Tête à tête. On était peut-être toutes les deux dans le stress ou à tout le moins pas assez stressés. Je ne sais pas lequel des deux, mais on a eu le temps d'aborder le sujet, mais on était peut-être moins précis qu'on a le goût de l'être aujourd'hui, puis peut-être plus pratique encore aujourd'hui que la dernière fois. Des gens qui ont écouté la première ont trouvé que c'était super enrichissant quand même. Mais je pense qu'aujourd'hui, on va être dans le plus concret dans ce que tu veux aborder.
Effectivement, c'est un peu les commentaires. Bon, c'est sûr que c'est des gens que je connais qui m'ont donné leurs commentaires. Donc, c'était assez positif. Moi, à mon avis, ben effectivement, t'as raison, c'est un grand survol. Puis je suis parti dans plusieurs directions. Fait qu'aujourd'hui, on va vraiment axer sur le fumé, en fait, qui est la recette du stress. Je vais essayer d'être plus précis, plus concis, pour qu'on puisse là couvrir cet aspect-là du stress, parce que c'est un peu l'ABC, là, la grosse base.
Avant de reprendre ou d'entrer dans cette recette du stress-là, j'aimerais ça que tu reviennes un peu sur la distinction, les différences qu'il peut y avoir entre le stress et l'anxiété. Qui, je pense, c'est souvent une confusion un peu chez les gens où on utilise le même mot pour dire deux réalités différentes.
Ben, une distinction facile, et ça, c'est Sonia Lupien là, qui est la chercheuse par excellence là, sur le sujet, qui le présente ainsi, donc dans des mots beaucoup plus simples que toute la théorie ou les explications que j'avais essayé de donner la dernière fois. Quand on parle de stress, et là, on fait toujours le lien avec les mammouths. Donc, quand on parle de stress, ben il y a un mammouth qui est présent dans l'environnement. Quand on parle d'anxiété, le mammouth, il est dans notre tête. Donc, si je fais le lien avec comment je le présentais l'autre fois, ben effectivement, le stress, c'est qu'il y a une menace. Mon cerveau détecte une menace dans mon environnement. Et là, ma réponse de stress va s'allumer, va se déclencher pour que je puisse faire face. Au niveau de l'anxiété, bien, ça va être plus une pensée, donc souvent l'appréhension de qu'est-ce qui pourrait arriver tout d'un coup que telle chose se produit. Donc, le stresseur n'est pas encore là, mais il est dans ma tête sous forme de pensée, de scénario catastrophe, et ça va déclencher la même réponse de stress. Voilà.
Donc, autrement dit, quand je commence à m'imaginer tout ce qui pourrait arriver de catastrophique parce que mon gars est parti en auto puis il n'est pas rentré à l'heure qui était prévue, là, je suis dans le mammouth dans ma tête, je rentre dans l'anxiété qui peut me couper deux jambes littéralement puis pas me rendre efficace du tout. Là.
Voilà. Donc, tu vas imaginer les conséquences, tu vas essayer de trouver des explications à comment ça, il n'est pas arrivé à l'heure. Est-ce qu'il a fait un accident? Est-ce qu'il était retardé? J'espère qu'il a couché chez un ami. Donc, c'est un stresseur potentiel, mais dans les faits, il n'est pas encore là. Le stresseur, dans l'environnement, ça serait, tu reçois un appel, ton fils est à l'hôpital ou au poste de police parce qu'il a soufflé plus que la limite permise. Ce serait pas sympathique. Mais là, ça devient un stresseur. Parce qu'un des ingrédients de la recette du stress va être présent dans la situation. Ça risque d'être stressant.
Tu as commencé d'entrée de jeu en parlant de Sonia Lupien, donc sur qui on s'inspire beaucoup aujourd'hui pour cette émission-là. Qui est une grande chercheuse dans le domaine, et tu as parlé de la recette du stress. Alors, qu'est-ce que la recette du stress?
Ben, effectivement, juste avant d'expliquer tout ça, je ne veux pas me faire d'appropriation de contenu. Donc, moi, de présenter ces notions-là qui sont très bien décrites dans son dernier livre, qui est excellent. Je n'avais parlé un peu la dernière fois. Il est sorti deux semaines plus tard que j'avais comme info. Je l'ai vraiment entendu, je l'ai dévoré. Donc, tout ce que je vais raconter vient, en fait, de ce bouquin-là. Je veux dire, quand même, faites le tour, là, c'est vraiment fascinant. Donc, je ne m'approprie pas de contenu. C'est une façon de lui rendre hommage, dans le fond, et de participer au développement des... partager les connaissances.
Mais ce qui te fascine tant de ce livre-là, c'est que ton expérience pratique sur le terrain vient confirmer que comment sa recherche et sa façon de le vulgariser est ajustée à ce que tu constates aussi.
Ah, tout à fait. Le livre, ce n'est que de la vulgarisation de recherche scientifique. C'est construit tout en petits chapitres là, sur des sujets précis. Ça se lit super bien. Je l'ai lu une fois non-stop. En deux jours, j'avais fait les 300, je ne sais pas, j'avais à côté. Donc, il y a 420 pages. Là, en deux jours, j'avais passé au travers. Là, j'ai recommencé à le lire vraiment avec plus de réflexion. Mais oui, ça confirme ce qu'on peut remarquer sur le terrain avec nos étudiants stressés, entre autres, dans nos propres vies. C'est sûr, ça ne vient pas de nulle part, c'est tout basé sur des recherches. Ah. Mais ça fait du bien, on dirait, de savoir ça. Bon, ça simplifie, puis ça donne un aspect concret au stress, puis pourquoi on vit du stress.
Puis dans le concret, justement, le stress, c'est une réalité ou une perception?
Bon, OK. C'est toujours une question de perception. Même quand on va rentrer dans le ciné là, bientôt, c'est une perception, une impression, un sentiment. Donc, et c'est ce qui va expliquer pourquoi la même situation va stresser certaines personnes, alors que d'autres ne le seront pas du tout. Si je pense, par exemple, à une situation d'examen, on est dans cette période-là ici au Cégep Sainte-Foy, les examens de fin de session. Bien, pour certains étudiants, ça va être super stressant parce que leur cerveau va repérer qu'il y a un des ingrédients de la recette qui est là, alors que pour d'autres, leur cerveau, leur perception, leur sentiment accrochera pas sur une menace potentielle dans ces examens-là et ils vivront pas de stress.
Donc, pour réussir à bien lire notre stress, c'est ce que Sonia appelle la recette universelle du stress, là, que toi, tu as nommé tantôt en étant le ciné. Qu'est-ce que le ciné en tant que tel, là?
Le CINÉ, c'est l'acronyme qu'on a bâti, en fait, avec les quatre premières lettres de chacun, la première lettre de chacun des quatre ingrédients du stress. Donc, le C est pour le contrôle faible, le I pour l'aspect imprévisible des choses, le N pour la nouveauté et le E pour l'ego menacé ou les menaces à l'ego. Donc, ce qu'on sait, c'est que quand on perçoit qu'il y a un de ces ingrédients-là dans une situation, on va sécréter des hormones de stress. Si on perçoit que les quatre ingrédients sont là dans une situation, ben on va sécréter beaucoup plus d'hormones de stress.
Donc c'est dès qu'il y en a un, c'est en cumulatif, si on veut, là.
C'est en plein ça. Dès qu'il y en a un, ça déclenche une réponse de stress. S'il y en a deux, ben on va avoir un peu plus d'hormones de stress. Si les quatre ingrédients sont là, notre réponse de stress risque d'être beaucoup plus forte.
Donc, quand je me sens stressé, je peux me poser ces questions-là. Ça devient des balises pour m'aider à comprendre l'origine de mon stress ou à normaliser le stress ou je ne sais pas trop comment tu présentes ça, là.
Ben, comme je disais, moi, pour être franc, en lisant son livre, j'ai fait l'exercice qu'elle propose pour la première fois. Même si ça fait 12 ans que je parle de stress dans les cours d'introduction psycho, que je travaille sur le stress et l'anxiété avec les étudiants, j'ai fait pour vrai. Moi, je suis un gars de même des fois. Là, je sais théoriquement dans ma tête, mais je ne l'ai pas nécessairement appliqué. Je l'ai fait pour vrai, cet exercice-là, et paf, fin de l'histoire. Ça m'a pris 20 minutes de le faire par écrit, de vraiment m'asseoir et d'identifier les ingrédients qui étaient présents dans la situation. Fin de l'histoire, plus de stress, fini pour les 3-4 jours là, jusqu'à temps que l'événement soit arrivé. Je trouve ça pratiquement magique. Il faut juste se donner la peine de le faire et ça nécessite une certaine réflexion. Donc, c'est ça, le ciné va nous donner, va préciser ce qui est menaçant pour nous, mais il faut juste se donner la peine d'identifier les ingrédients.
Donc, si on veut s'assurer de bien comprendre, on va peut-être les reprendre un par un, si tu veux bien. Donc, le C de ciné pour contrôle faible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire contrôle faible par rapport à quoi?
Par rapport au, à peu près n'importe quel événement de la vie que je pourrais dire. Souvent, si je me sens stressé, il y a la possibilité que dans la situation qui me stresse, que ce soit un événement, une situation précise, ou juste même dans mes pensées, il va avoir le fait que l'impression, je dis bien, le sentiment de ne pas avoir de contrôle sur la situation, sur l'événement, que ce soit vrai ou pas, là, ça compte même pas. Si j'ai l'impression ou le sentiment que je perds le contrôle, que j'en ai pas, que j'en aurai pas, pouf, l'ingrédient est présent et je vais me mettre à sécréter des hormones de stress.
Donc, la réalité n'a pas d'importance, c'est la réalité que je perçois qu'il y en a. Donc, autrement dit, ça peut arriver que j'ai vraiment pas de contrôle, ça peut arriver que j'en ai, mais que je ne le perçoive pas que j'en ai, et dans les deux cas, ça va générer la même forme de stress à l'intérieur de moi.
Tout à fait. Et ça, c'est une bonne précision. Ça se peut que tu en aies du contrôle sans le repérer, sans t'en rendre compte. C'est pour ça que l'exercice devient intéressant. Si j'avais un exemple de situation où on peut avoir l'impression de ne pas avoir de contrôle.
Tu le nommais tantôt. On est face à des examens. Je peux avoir l'impression que le temps va trop vite, j'ai pas le temps d'étudier, je suis en train de perdre le contrôle sur mes études. Ça peut être un sentiment de perte de contrôle.
Oui, bon, ben d'accord, on va coller cette recette-là à l'exemple des examens. C'est souvent ce que je fais avec les étudiants là, quand je passe en classe. Donc, effectivement, j'ai l'impression que il y a une surcharge de travail, que j'y arriverai pas, je me suis plus ou moins bien organisé. Il y a quelque chose que... Donc, j'ai l'impression de ne pas avoir de contrôle sur l'examen, sur ma semaine d'examen. Si on réfléchit comme il faut, et pas nécessairement vrai. Mais si j'ai cette impression-là, c'est sûr que je vais être plus stressé.
Avant qu'on l'applique comme il faut, mot à mot, peut-être, on va continuer avec le « i ». I qui semble assez évident à comprendre, là, l'imprévisibilité. Donc, j'imagine toutes les choses que je n'ai pas prévues dans ma tête et qui arrivent vont être source de stress. La question qui me vient, Sébastien, par rapport à ça, c'est si c'est imprévu, tu sais, j'ai du stress, mais tantôt on se disait, si je me mets à vouloir tout prévoir, je peux faire naître de l'anxiété. Et comment dealer là-dedans?
OK, mais d'abord, tu as raison, le côté l'imprévisibilité, c'est tout ce qui peut survenir que j'ai pas vu venir, auquel je ne m'attendais pas. Je sais pas comment ça va évoluer. Donc, ça peut être des choses très, très simples, comme j'ai prévu aller en voyage à telle date, puis deux jours avant mon départ, j'apprends que mon père a une maladie grave. Voilà un imprévu. Comment je vais composer avec ça? Et là, la dimension anxieuse à laquelle tu fais allusion, c'est que souvent dans l'anxiété, ben c'est le hamster qui va tourner. La menace tourne, ça tourne, les pensées, oui, mais s'il arrive ça, je pourrais faire ça, il va arriver telle chose. Et ça va être pour les inquiets, le traitement de base là, va vraiment être, entre autres, d'amener un côté rationnel, réaliste à cette imprévisibilité-là. Par exemple, c'est quoi le pire qui peut arriver? C'est quoi les chances que tu penses que ce pire-là puisse vraiment survenir? Si ça arrive, est-ce que ça va vraiment être si grave, dramatique, fatal que ça? est-ce que tu peux faire quelque chose, puis tu vois, là, on va redonner du contrôle un peu, est-ce que tu peux faire quelque chose pour diminuer les chances que ça arrive ou pour t'adapter si ça arrive? Donc là, on enlève, on recadre un peu l'aspect imprévisible en disant, oh, attends un peu, c'est pas sûr que ça va arriver. Mais on va le faire par écrit, comme cet exercice-là là, qu'on va faire ensemble tout à l'heure, on va le faire par écrit aussi.
Donc, l'idée, c'est pas de jouer l'imprévisibilité avec l'inverse en essayant de tout prévoir. C'est juste des fois d'accueillir puis de voir dans l'imprévisible qui semble m'en venir, quels sont les éléments qui sont quand même un peu prévisibles à travers tout ça. Donc, on y reviendra avec l'examen, mais autrement dit, j'ai beau. Il y a peut-être les questions sont imprévisibles en partie dans l'examen, mais je connais en partie la matière quand même. C'est pas juste du. C'est pas des questions de quiz à la télévision que je connais pas du tout, là.
Tout à fait.
Le N pour nouveauté, nouveauté, imprévisibilité, il y a quand même une différence importante entre les deux.
Ben oui, les deux peuvent être là en même temps. Un peut être là sans l'autre. Si je pense à nos étudiants, puis où on fait beaucoup d'efforts pour bien les accueillir. Donc, on imagine, particulièrement cette année, un étudiant qui termine son cinquième secondaire dans des circonstances nouvelles et pas cool avec la COVID, qui va rentrer au cégep. Donc, il y a beaucoup de nouveautés, là. Je m'en vais pour certains qui partent de l'extérieur, s'en viennent s'établir dans la région. On manque de niveau d'enseignement où on n'enseigne plus tout à fait de la même façon. Les étudiants sont un peu plus libres. Tu as 15 semaines pour te revirer de bord. C'est quoi cette ville-là? C'est gros, le cégep, Sainte-Foy. Donc, voici plein d'aspects de nouveauté qui peuvent déclencher des hormones de stress.
Même si je sais depuis 6 mois que c'est là que je vais aller, juste la nouveauté d'entrer les pieds dans la bâtisse que j'ai jamais été peut être une source de stress, donc.
Oui, ben, selon la perception que tu vas avoir, effectivement.
Et le dernier...
Dans la distinction nouveauté-imprévisibilité, imaginons, je me rappelle de mon temps de cégepien, un moment où je n'utilise pas d'agenda, même à l'université, j'arrive un mercredi matin, il y avait un examen dans ce cours-là. À ce moment-là, pour moi, c'est pas nouveau parce que aux études, on fait beaucoup d'examens, mais c'est assez imprévisible. Je l'avais pas noté à mon agenda, je me lève mercredi, c'est comme « Ah! » Donc, ça, c'est un exemple qui serait imprévisible, mais pas nouveau. Puis à l'inverse, ben, on pourrait avoir quelque chose de nouveau qui est l'exemple que je donnais à l'étudiant qui s'en vient au cégep. C'est nouveau, mais c'est pas imprévisible. Il est inscrit depuis le printemps d'avant. Il sait qu'il s'en vient à tel endroit. Il a peut-être même cherché son appart. Donc, voilà. Ça, c'est nouveau sans être imprévisible.
Le dernier du ciné, me semble, peut être plus difficile peut-être à saisir là, selon les personnes. L'ego menacé. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'ego menacé?
Je vais encore me référer à l'ouvrage de Sonia Lupien pour y aller dans des termes très simples. L'ego, dans le fond, c'est notre personnalité. C'est notre estime, c'est notre sentiment de valeur personnelle. C'est ce qui fait que je suis moi. Donc, à toutes les fois que j'ai l'impression que je peux être ridiculisé, que les gens vont me rabaisser, qu'on va critiquer ou mettre en doute mes compétences, que ma valeur en tant qu'employé ou qu'en tant qu'être humain ou en tant que conjoint vont être mise à l'épreuve parce que je vais être ridiculisé, parce que je vais moi-même, un échec scolaire par exemple, je vais moi-même développer une vision plus négative de moi-même. Je pensais que j'étais bon, finalement je suis pas si bon que ça. Donc c'est de ça qu'on va parler quand il y a une menace à l'ego.
OK. Donc, ça peut toucher l'estime de soi de façon générale. Ça peut être plus précis, plus vague que ça. La perception que les autres ont de moi ou que je pense qu'ils ont de moi, mon sentiment de compétence, etc. C'est ce qui englobe l'ego.
Ouais.
Tu nommais que chacune de ces 4 choses-là peut être... juste une sécrète déjà des hormones.
Oui.
Plusieurs vont augmenter la quantité d'hormones. Quand tu parles de ces hormones-là, peux-tu juste rappeler C'est quoi ces hormones-là? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça provoque physionomique? C'est physionomique, j'imagine, là. C'est pas juste mental, même si on parle souvent de la santé mentale avec le stress.
Ben là, il y a différentes hormones de stress. Celle dont on parle le plus souvent, c'est le cortisol. On va avoir de l'adrénaline aussi quand la réponse de stress est déclenchée. Tout ça mis ensemble, c'est une centaine de réactions là, qui se déclenchent en quelques microsecondes dans notre corps, là, puis qui vont se développer dans les quelques minutes qui suivent, là. Donc, quand la réponse de stress se met en place, une chose dont on a parlé un peu depuis tout à l'heure, c'est l'esprit qui va vite. Ça tourne dans ma tête. Le hamster, il spin. Les idées, là, ça va vite. Ça va être une hausse de la pression. Des fois, on va sentir la face chaude, on va rougir un peu. On va sentir un changement de température corporelle. On va suer, entre autres. Ça va être évidemment les deux qui arrivent assez rapidement. Le cœur qui bat plus vite ou qui débat, comme on dit. Accélération du rythme respiratoire. Donc, on va se mettre à respirer plus rapidement. Ça peut être des tremblements. Ça peut être des sueurs froides. Ça peut être les impressions de nausées. Donc, c'est tout
Mais
ce qu'on va appeler les symptômes, en fait.
ces symptômes-là peuvent être spontanément semblés négatifs, mais ont un objectif positif pour le corps. Normalement, quand le cœur s'accélère ou que l'aspiration accélère, il y a un objectif positif que le corps recherche à travers ça.
Tout à fait. Ça, c'est comme on avait parlé un peu à notre première jasette. Cette réponse-là se déclenche automatiquement et rapidement pour favoriser ma survie de l'individu, survie de l'espèce. Et là, on pourrait prendre chacun de ces symptômes-là, puis s'intéresser à son utilité. Ça, si vous voulez en savoir plus, la peur d'avoir peur, qui est le manuel vulgarisé d'un traitement des attaques de panique, là. Il explique très bien les fonctions dans le réflexe de survie de la réponse de stress ou de la peur. Par exemple, il y a sécrétion d'adrénaline, donc ton corps va être plus énergique. C'est une libération d'énergie là, qui se passe. Donc, ça crée un changement de température, tu vas avoir plus chaud. Il faut que tu sues plus pour justement garder ta température interne dans les normes acceptables, donc tu vas transpirer plus facilement. Le cœur, c'est une bonne chose, qu'il batte plus vite, il va envoyer le sang plus fort, plus rapidement dans tes gros muscles. Donc, ça va m'aider, les gros muscles étant les cuisses, le fessier, les dorsaux, les biceps, pour que je puisse me sauver rapidement ou combattre. On va dire un ours, là, ça va faire plus actuel, pour que je puisse le combattre plus efficacement ou me sauver plus rapidement. C'est sûr que je respire plus rapidement, ça va oxygéner mon sang qui lui-même est pompé dans ces gros muscles-là. On sait que je parlais de malaise gastro-intestinaux, là, les nausées, maux de ventre, ça pourrait être diarrhée, la constipation. Pendant que tu es attaqué par un ours, ce n'est pas un bon moment pour digérer. Tes ressources énergétiques sont beaucoup plus utiles et nécessaires ailleurs. Donc, le sang va un peu se retirer de l'estomac ou ça va mettre notre digestion sur pause. Pour rappeler à notre homme des cavernes, là, arrête de digérer, là, c'est pas utile à ta survie. Présentement, il faut que tu te sauves ou que tu combattes si tu veux rester en vie.
Donc, notre corps combat de la même façon que l'homme des cavernes d'autrefois face au mammouth, qu'on ait un ours ou qu'on ait un stresseur réel devant nous. La compréhension de tout ça, c'est que même le fait d'anticiper va produire les mêmes hormones. Et est-ce
Oui.
donc possible de faire disparaître le stress, de vivre avec le stress, de combattre le stress? Qu'est-ce que le ciné nous apprend de tout ça?
C'est une réaction, je ne sais pas si c'est exactement. Ben, le ciné, je veux dire, c'est la recette universelle, et là, on parle peu importe ton âge, ta religion, l'endroit où tu vis sur la Terre. Si un de ces quatre ingrédients-là est présent, tu vas déclencher une réponse de stress. quand on regarde ça, on se dit, ben, probablement que c'est utile à la survie quelque part, là. Que si notre homme des cavernes perdait le contrôle ou il survenait un mammouth imprévisible, c'est assez menaçant pour la survie. Donc, ça serait surprenant qu'on... Tu sais, puis la fonction numéro un de notre cerveau est de détecter des menaces pour nous garder en vie. C'est le même depuis un bon bout de temps, puis comme des fois, ça c'est le moment où les étudiants n'aiment pas ça venir me voir, je leur dis, ça, on pourrait faire 50 rencontres, on pourrait même en faire 1000. Tu peux mieux négocier ta réponse de stress ou négocier, tu peux mieux composer avec ta propre réponse de stress ou mieux négocier les stresseurs, mais on n'enlèvera jamais les stresseurs de la vie, puis on mettra jamais le stress à off non plus. Et ça, c'est bien précisé dans le dernier livre de Mme Lupien, justement, ce que j'ai trouvé vraiment le fun, parce que souvent, les étudiants qu'on voit, ils viennent nous voir, puis leur demande, c'est « Fais en sorte que je ne sois plus stressé. » Oh, mais là, ça, je peux pas t'aider pour ça. Ce que je peux faire, c'est mieux négocier les stresseurs. Donc, tu as raison, c'est comme...
Excuse-moi. Oui, non, je veux juste dire, donc, apprendre à composer avec le stress, ça, c'est une réalité. Et la lecture, la recette universelle qui est le ciné que nous donne Sonia Lupien ici, peut m'aider à comprendre l'origine de mon stress pour mieux composer justement avec mon stress, puis mieux dealer, si on veut prendre l'anglicisme, avec ma réalité ou ma perception de la réalité.
Oui, ben, il y a deux aspects dans ça. Le ciné, effectivement, comme tu l'as dit, ça va clarifier c'est quoi exactement là où les menaces dans la situation. Et là, je vais pouvoir répondre à cette menace-là avec l'exercice qu'on va faire. Et ça, c'est comment mieux négocier avec les stresseurs qui sont présents ou que je perçois comme étant présents dans l'environnement. L'autre partie, je le verrai un peu différemment, c'est que, ben oui, c'est désagréable, le stress. En même temps, quand la réaction de stress est utilisée, par exemple, il y a un gros chien qui court après toi, tu ne te questionneras pas sur « c'est donc bien plate que mon cœur ait battu plus vite puis j'ai eu chaud » parce que tu vas avoir utilisé l'énergie puis tu vas avoir survécu au gros chien. Et la direction qu'on prend de plus en plus, c'est avec la psychoéducation, entre autres, avec les exercices de respiration, il y a beaucoup de trucs assez faciles pour faire taire une réponse de stress, pour la calmer. Chanter, la respiration diaphragmatique ou la respiration bedaine. Seulement rire, ça va prier, ça va faire ça. 15 minutes d'activité physique, ça va faire ça. Ça, c'est une chose qui va tempérer. Le yoga va faire ça, la méditation va faire ça. Comme casser notre réflexe. La meilleure façon, d'ailleurs, c'est l'exercice physique. T'as un stress, lève-toi puis va faire 15 minutes de marche rapide ou de jogging. Ça va liquider, casser ta réponse de stress. Mais si le stresseur est encore là, elle va revenir.
Mais ce que je t'entendais déjà dire, c'est d'être suffisamment conscient pour pouvoir faire l'exercice après de ce qui me stresse ou ce qui ne me stresse pas avec le temps, avec l'apprentissage de qui je suis, pour admettre aussi que s'il y a des choses qui peuvent me stresser puis pas stresser l'autre à côté, je peux avoir des choses qui détendent du stress, comme le yoga, qui, moi, me stresse, par exemple. Ça ne veut pas dire que une recette, entre guillemets, qui aide quelqu'un à évacuer un peu cette surénergie-là du stress va fonctionner pour un ou pour l'autre. Là. C'est à moi de trouver ma recette à quelque part là-dedans.
Tu as tout à fait raison. Donc, il y a cette idée-là où des fois, les étudiants, puis moi le premier, j'aimerais ça, avoir une recette toute faite, là, comme j'ai rien qu'à faire ça, puis je ne vivrai plus de stress. Mais il n'y en a pas, il faut en essayer diverses. Il y en a un paquet. Écouter de la musique, notamment écouter de la musique nouvelle, qui a des paroles en français où notre cerveau va être capté par les paroles, ça va complètement court-circuiter le hamster, tu sais, mais il faut les essayer. Puis donc, ça, c'est pas les mêmes qui vont fonctionner sur chaque personne. Et d'ailleurs, ça, elle le précise, c'est un peu une erreur. Quand on fait un programme, on cherche un programme qui va aider tout le monde, comme faire 10 minutes de méditation tous les jours en rentrant à l'école à chaque matin, par exemple. Ben, là, si ma mémoire est exacte, je crois que c'est les jeunes garçons, je ne sais pas si c'est TDAH ou juste les jeunes garçons 3 à 5e secondaire, tu fais ça, pour eux, ça, généralement, ça augmente les hormones de stress. Donc, on propose un moyen tout fait pour tout le monde, puis il y en a à qui on nuit là-dedans. On devrait bien plus leur dire, ben toi, va courir, c'est ça. Tu sais, va faire le tour de l'école à marche rapide. Là. Puis l'autre chose aussi, c'est que une stratégie comme ça peut marcher une fois, mais pas la fois d'après. Mm-hmm. D'où l'importance d'avoir le coffre à outils, là, d'en avoir plusieurs, d'être capable de varier les méthodes qu'on essaie. Ça se peut que le yoga marche un bout de temps, puis hop, dans telle situation, il marche moins bien. Donc, mais d'une façon ou d'une autre, il va falloir s'attaquer au mammouth à un moment donné.
Si à partir du ciné, je veux déconstruire mon ciné, je veux apprendre à composer avec le stress, faisons un exemple d'exercice que tu inviterais ton patient, ton client, l'étudiant ou un groupe devant toi à faire pour composer avec le stress.
OK. Ben, on pourrait prendre un examen de fin de session, puis j'aimerais ça qu'on le fasse les deux, puis probablement qu'on ne verra pas ça de la même façon, ça va illustrer vraiment qu'est-ce qui peut être stressant ou pas pour toi et pour moi. Donc, on a un gros examen d'un cours difficile qu'on nommera pas, tu sais, parce que c'est pas les mêmes qui sont difficiles pour tout le monde. Vendredi matin qui s'en vient, là, 8h, gros examen de 2h, examen final sur 40% de la session. Et là, on va répondre ensemble. J'ai identifié ma situation stressante. Là, je vais déconstruire mon stress. Toi, Danny, est-ce que tu as l'impression de perdre le contrôle?
Moi, face à un examen, je pense pas. Je me sens pas très en perte de contrôle, généralement, face à un examen.
OK. Moi, j'ai la même réponse que toi, parce que à un moment donné, quand ça fait un petit bout que tu vas à l'école,
on le voit.
Tu finis par développer des trucs. Donc, moi, j'ai pas l'impression de perdre le contrôle, notamment parce que je peux me préparer, parce que je peux planifier mon étude. Je peux segmenter, je vais faire telle partie à tel moment. Je sais aussi que pendant l'examen, c'est des trucs qu'on peut développer avec le temps. Pendant l'examen, je sais que j'ai le contrôle sur comment je vais répondre aux questions, dans quel ordre. Par exemple, moi, ce que je faisais, c'était de lire toutes les questions. Celles que je connaissais les réponses, je faisais un petit X à côté. Et je m'en retournais tout de suite répondre à ces questions-là. Donc, je savais que j'accumulais des points. Je savais que je ne sortirais pas de l'examen en me disant « je vais avoir zéro » parce que je savais que…
Tu renforçais ta confiance en même temps.
Et en plus, je me donne un air d'aller, je renforce ma confiance. Je vais chercher des points fiables, puis il me reste du temps pour travailler les autres. Voilà. Donc, j'ai zéro l'impression de ne pas avoir de contrôle sur un examen. Est-ce que toi, tu as l'impression que c'est imprévisible?
Bien là, puisque tu m'annonces déjà que c'est vendredi, je te dirais, si c'était déjà dans le plan de cours depuis le début de l'année, probablement pas. Si je l'apprends aujourd'hui que c'est vendredi, bien, ça peut arriver que je le vive un peu de façon imprévisible, mais toujours bien moins que si je rentre au cours et on m'annonce là que l'examen il est dans 5 minutes.
Ouais. Et ça, je me rappelle de moments où tu rentres, puis aujourd'hui, il va y avoir un petit test, là, tu fais, je ne l'ai pas vu venir, qu'est-ce que c'est ça, tu sais, mais il ne comptera pas. Ah!
Oui, c'est vrai.
C'est moins grave. Moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, ce n'est pas imprévisible. Je sais, il est quand. Techniquement, on m'a dit c'était quoi la matière. Quand je parle de contrôle aussi, j'ai oublié tantôt, je peux poser des questions au prof, je peux demander des éclaircissements. C'est pas vrai que je n'ai pas de contrôle, là, pour moi. Est-ce que c'est imprévisible? Non, c'est ça. Techniquement, je sais y est quand. Je devrais savoir la matière. Je devrais avoir une idée de la difficulté de la matière parce que, on est rendu en fin de session. Donc, je connais un peu plus mon prof. Je sais un peu plus comment il évalue, quel genre de questions il va poser. Mon premier examen de cégep, par exemple, lui, il était stressant et imprévisible parce que je me répète, ça, j'ai pas le niveau de difficulté, ça va être quoi le genre de question. Mais pour moi, en général, outre le niveau de difficulté qui peut être imprévisible, c'est pas un ingrédient qui serait présent.
Puis là, on le rappelle, tu sais, quelqu'un d'autre pourrait être en train de répondre à notre place, puis trouver que pour lui, c'est imprévisible, parce que malgré toute la session, il n'est pas arrivé à bien saisir la matière ou la manière de fonctionner du professeur. Il a l'impression de ne pas être en mesure, par exemple, de situer le niveau de difficulté aussi bien. Donc, le degré d'imprévisibilité peut être un peu plus grand que nous. Par contre, il y a des éléments prévisibles que juste le fait de se nommer que c'était prévisible, la date, l'heure, le moment, ce que tu dis, c'est que ça peut quand même venir l'aider à composer avec son stress parce qu'il identifie que tout n'est pas imprévisible et catastrophique dans ces éléments-là.
Ben ouais, ce serait déjà une façon de relativiser un peu. Si l'ingrédient n'est pas là du tout, ben on s'en occupera pas de toute façon. Mais c'est ça, outre le niveau de difficulté, puis je me rappelle quand j'enseignais, là, c'était tout le temps les questions au dernier cours, puis même des fois le matin de l'examen, est-ce que l'examen est difficile? Est-ce que l'examen va être long? Parce que tu vois, les gens, ils essaient d'aller chercher de la certitude, là. Fait que, ben, il est long, c'est une feuille 8,5 par 4 par 11, là. Il est long comme une feuille de pratique qu'on a faite d'habitude. Puis, est-ce qu'il est difficile? Ben, il est fait pour être réussi. Des fois, je leur disais, j'étais très sécurisant. Je disais, j'ai passé ça à mes chums, là, en fin de semaine, à un souper, puis la plupart ont eu 75 et ont jamais fait le cours, là. C'est encourageant, ça. Ça enlève un peu d'imprévisible.
OK.
Mais, pour le moment, pour moi et comme pour toi, c'est pas imprévisible, donc on ne tient pas compte de cet ingrédient-là.
Donc, contrôle, imprévisibilité. Ensuite, c'est la question de la nouveauté.
Bon, pour moi, c'est assez clair. Rendu au cégep, à l'université, à maîtrise de l'université, qu'un examen, c'est pas nouveau. Je l'ai toujours fait depuis que je suis rentré à l'école, sous une forme ou sous une autre. À part peut-être quand on change de niveau, par exemple, ou un peu comme je disais tantôt, c'est quoi un examen de cégep, comment ils vont évaluer. Il peut y avoir un petit aspect de nouveauté pour les premiers et d'imprévisibilité, mais comme notre examen est vendredi, fin de session, on a toute la session, tous nos cours pour savoir c'est quoi des examens de cégep un peu. Pour moi, c'est zéro nouveau.
Ce qu'on peut ressentir des fois, entre autres, chez certains étudiants qui ont pour la première fois des stages, qui n'ont jamais fait de stage, il y a une nouveauté, ils savent qu'ils sont évalués et c'est générateur de stress parce qu'ils ne savent pas trop dans quoi ils embarquent. Donc, ça pourrait être une réalité. La question de l'ego. Alors là, moi, je me mettrais à ma place habituelle, puis je te dirais, il y a certaines matières que je te dirais que je ne me sens pas du tout en danger, mais il y a des matières où je me suis dit, oh mon Dieu, il me semble que c'est clair que je vais me planter.
Tout à fait. Moi, dans l'exemple qu'on fait, la menace que je verrais pour moi, ça serait l'ego. Et ce que j'entends souvent des étudiants, c'est ça. J'étais bon, je suis devenu moins bon. Ça me prend une bonne cotère pour rentrer à l'université. Si je ne rentre pas dans le programme que je souhaite, qu'est-ce que je vais devenir? Donc, il y a beaucoup de menaces à quelle est ma valeur à comparer des autres. Est-ce que mes idéaux vont se réaliser? Est-ce que je suis un bon étudiant, dans le fond? Puis, moi, tout ça, je le mettais dans l'ego. Possibilité aussi, parce que c'est des choses qu'on voit, de décevoir les parents qui ont des grosses attentes, parfois, pour les étudiants.
Est-ce que dans l'ensemble du ciné, parce que, tu sais, ça peut être facile de trouver des éléments pour reprendre contrôle, pour rendre les choses moins imprévisibles. Est-ce que, puis moins nouvelles, est-ce que l'ego, c'est pas quelque chose qui est le plus confrontant pour l'être humain occidental qu'on est? Parce que, tu sais, si tu parlais du mammouth tantôt, si je suis en train de courir contre le chien qui veut me mordre, c'est instantané. Je pense même pas à mon ego, je pense juste à ma survie. On est dans le monde occidental peut-être plus confronté à des situations que c'est pas de la survie réelle, c'est de la survie de mon ego, dans le fond, qui est le plus souvent confronté. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu perçois le plus chez les gens que tu croises par rapport au stress?
Je te dirais oui. Moi, c'est l'ingrédient que je trouve le plus fascinant en même temps. Comme tu l'as dit, c'est une conception un peu occidentale, là, toute cette notion-là d'ego, c'est une conception théorique aussi un peu. toute cette notion-là de « je vaux quelque chose, je suis important », si on compare ça au bouddhisme, où en gros l'idée de pratiquement supprimer ou donner le moins de place possible à son ego, c'est une méchante différence avec toute l'idée de performance, de réussite, d'être meilleur que l'autre, d'être riche, de bien paraître, avec tous les médias sociaux aussi. Puis moi, je suis pas scientifique, là, je voulais être clinicien à la base, mais j'aurais tendance, là, je pourrais faire le décompte, mais pour moi, présentement, au Québec en 2020, COVID à part, bien sûr, là, mais cet ingrédient-là, la menace à l'ego, va participer à 50-60% de la recette, là. Et les jeunes que je vois dans mon bureau, c'est beaucoup des menaces à l'ego.
Puis dans cette menace à l'ego-là, qu'est-ce que je peux faire, moi, si j'ai peur de ce que mes parents vont penser, si j'ai peur de ma cote R, si j'ai peur de passer pour un pas bon ou que moi-même, j'ai l'impression que je suis un pas bon, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça?
Bien, en fait, ce qu'on pourrait faire par rapport à n'importe quel ingrédient, quand on a identifié la menace qui est là, dans le cas de notre examen ici, c'était la menace de l'ego.
Mais ça pourrait être la même chose si c'est le contrôle, par exemple. C'est ce que tu dis, là. Tout à fait. Ce que tu vas présenter là, pour contrebalancer le ciné, ça fonctionne que j'en ai un, deux, trois, quatre, quatre éléments qui sont là. Je peux appliquer ce que tu vas mentionner là.
Tout à fait. S'il y a les quatre éléments, il va falloir le faire pour chacun des éléments. Et ça, pour juste avoir révisé tantôt sur l'heure du midi, souvent, on s'arrête au premier. « Ah, j'ai pas de contrôle, c'est ça. » Puis, OK, je vais reprendre du contrôle de telle façon. Mais, oh, il y a un autre ingrédient. On sait pas, on n'a pas fait les quatre ingrédients. On l'a pas déconstruit, tout notre stress. Donc, chaque ingrédient, ce que je vais faire, c'est que je vais rédiger, idéalement par écrit, un plan A, un plan B, un plan C. Une espèce de résolution de problème, si on veut. Et jusqu'à temps que mon cerveau soit convaincu, donc que j'ai l'impression que si j'applique ce plan-là, ça va fonctionner. Et là, la recette, là, les hormones de stress vont cesser d'être produites.
Et là, tu vas nous donner un exemple, donc, à partir de l'ego, vu que dans l'exemple qu'on donnait, c'était l'ego qui était un des facteurs prédominants, mettons, en souffrance.
Et voilà. Donc, je me mets à la place d'un étudiant qui voudrait aller en médecine, par exemple, qui a peut-être pas la cotère, ou que ses parents le voyaient médecin, lui il aime la santé, mais une technique en échographie, ça aurait fait bien son affaire, mais eux, ils veulent le... Donc, son ego est menacé par cet examen-là, s'il n'y a pas des bonnes notes, il va peut-être se chicaner avec ses parents. Donc, plan A, l'étudiant pourrait dire, ben je vais expliquer à mes parents que je fais de mon mieux au cégep, que je suis avec d'autres bons étudiants et que je travaille fort, mais que je peux être, par exemple, dans les moins bons, des meilleurs. C'est une chose qu'on va voir en arrivant au cégep. Les programmes forts ou les programmes contingentés, c'est tous des bons étudiants qui rentrent là. Puis ben malheureusement, il y a une moyenne entre ces bons étudiants-là et il y en a qui vont être en haut et d'autres en bas. Donc, si l'étudiant il a l'impression que de dire ça à ses parents, écoute, moi, je vais leur parler, je vais leur dire que l'important, c'est que je fasse de mon mieux, que s'ils sont déçus, c'est de leurs affaires, mais que c'est un peu normal que ce soit plus dur quand on change de niveau. Si lui, il est convaincu que ça va marcher, le plan A va être suffisant. S'il n'est pas convaincu, puis là, on va en faire A, B, tu peux en faire jusqu'à W, si tu veux, des plans. Règle générale, ce qu'on sait, c'est que 90% des gens ne se rendront même pas au plan B. Dans la vraie vie, là, c'est qu'ils n'auront pas besoin d'appliquer la stratégie. Et l'impression marche des deux côtés. Hein. J'ai l'impression que c'est menaçant pour mon ego. Si je renvoie un message à mon cerveau que j'ai l'impression que je sais quoi faire puis que ça va marcher, ça va couper la réaction de stress. Donc, plan B, l'étudiant pourrait décider de faire « OK, c'est quoi les autres programmes qui sont possibles, qui ressemblent à la médecine, qui seraient dans la santé, mais qui seraient plus accessibles pour moi? » Parce que ben, ça se peut des fois dans la vie qu'on frappe un mur. Je me rappelle de mon 23% en mathématiques, deuxième cours de mathématiques. OK, malgré tous mes efforts, ma bonne volonté, je ne comprends rien. Ça ne marchera pas, les maths ni les sciences de la nature. Il faut que je fasse d'autres choses. C'est un coup dur, mais tu vois, je suis en train de parler avec toi pour aider plein d'étudiants. Cet échec-là m'aura enligné vers la profession de psy. Donc, un étudiant pourrait décider d'aller voir un conseiller en orientation pour s'informer sur c'est quoi les programmes qui ressemblent à la médecine. Et chose que les étudiants ne savent pas, il pourrait aussi aller voir son conseiller ou conseillère en orientation. Si le plan B ne calme pas, ne semble pas, son cerveau ne le voit pas comme une solution efficace, on va aller au plan C, par exemple, qui pourrait être c'est quoi les autres façons que j'ai d'accéder au programme de médecine? Et là, il pourrait effectivement rentrer dans un autre programme à l'université, faire une année, idéalement un programme qui va ressembler. J'ai appris qu'il y a des cotes aussi pour certains programmes. Donc, il ne rentre pas en médecine, mais il va rentrer dans un programme de santé où la cote est bonne. Il va faire un an, il va s'habituer, il va refaire une demande en médecine l'année d'après. Donc, sa note du cégep va moins compter.
Donc, peu importe la situation, si demain je commence un nouvel emploi, je suis stressé à cause de ce nouvel emploi-là, je peux donc passer la recette du ciné, la question du contrôle, de l'imprévisibilité, de la nouveauté, de l'ego, confirmer par mes réponses si oui ou non il y a des facteurs de contrôle, d'imprévisibilité, de nouveauté, d'ego. Et à celle qui a une réponse positive, j'y vais avec un plan A, un plan B, un plan C. Donc, si j'en ai deux, j'en le fais deux fois, j'en ai trois. Et ça, parce que j'ai des réponses, j'ai des solutions, je me redonne une façon de composer avec mon stress. Et ça va juste les écrire, va déjà diminuer le stress que je peux porter puis m'aider à avancer puis à mettre un pied devant l'autre.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut juste se donner la peine de le faire. Dans le fond, ça renvoie le message à ton cerveau. C'est comme, OK, merci champion de m'avoir détecté la menace. Je sais quoi faire. Faites-moi patience, je sais quoi faire.
Il nous reste...
J'ai du contrôle à quel point, c'est pas imprévisible. Voilà ce que je fais face à la nouveauté. Puis voilà, si mon ego est menacé, je vais faire ça. Merci, je sais maintenant comment chasser le mammouth.
Voilà, il nous reste environ 4 minutes pour clore l'émission. Je t'entends dans l'exemple que tu donnais, dans le plan A, il y avait « je parle à mes parents », puis si vous n'êtes pas content, c'est pas de vos affaires, dans le fond. Il y a une notion là-dedans de prendre ses responsabilités puis de remettre l'autre dans ses responsabilités à quelque part. Tu t'envoies tes parents, tes amis, les autres dans leur espace, puis tu t'occupes de ton espace au lieu de te laisser garrocher d'un à l'autre un peu là-dedans.
Oui, tout à fait. En même temps, c'est une réplique facile à dire pour moi qui est rendu psy assis sur une chaise et qui jase ça à l'étudiant. Je me mets à sa place à 17 ans. C'est pas nécessairement évident de jaser à nos parents de leurs attentes versus les nôtres, de leurs projets, de ce qu'eux pensent qui est bien pour nous. Ils font pas ça méchamment, mais des fois, on s'en va juste pas en même place. Et l'image que j'ai, que je vais souvent utiliser pour travailler avec les étudiants, c'est mon image des carrés de sable, où, dans le fond, moi, comme étudiant, j'ai un carré de sable qui contient mes pensées, mes émotions, mes actions, mes valeurs, mes intentions, mes attentes et mes désirs. Et mon parent, il a aussi son carré de sable avec les mêmes affaires, ses émotions à lui, ses pensées, ses actions. Et c'est d'essayer comme de faire, OK, mais moi, j'ai mon pouvoir et ma responsabilité est dans mon carré de sable. Voici l'action que je peux faire. Je vais le dire à mes parents. Oh, mon parent ne répond pas comme je m'y attendais. Je reviens dans mon carré de sable. Est-ce que je peux essayer de faire mieux comprendre? Est-ce que je vais trouver une façon... je vais faire de l'auto-sabotage pour lui faire comprendre.
Autrement dit, j'ai pas à chercher à avoir le contrôle sur comment, une fois que j'ai nommé à mon parent, à mon ami ou quelque chose... Je n'ai pas à avoir le contrôle sur sa réaction, ça lui appartient. Je peux essayer de le dire autrement, je peux revenir à la charge, mais je n'ai pas à prendre sur moi sa réaction.
Et voilà, ni ses attentes à lui. C'est sûr que là, c'est plus difficile quand on est dedans. Mais même en tant qu'adulte, des fois, et puis c'est une chose que j'ai remarqué, des fois, on travaille tellement fort pour aller changer les choses dans le corps et le sable de l'autre. Moi, un exemple que j'ai déjà vécu et que je donne aux étudiants qui rigolent au bout, là, c'est, tu sais, je voudrais que ma belle-mère m'aime, là. Mais le degré d'amour qu'elle me porte, c'est dans son corps et sable. Moi, je peux y amener des fleurs, je peux être gentil avec sa fille, je peux y écrire une carte de Noël avec un poème à ma belle-mère, mais c'est toujours elle qui décide si elle m'aime pas, tu sais, ou elle m'aime. Puis le genre de choses, tu me fais sentir coupable. Oh, moi, je sais qu'il y a des gens parfois méchants, mais règle générale, les gens font des choses et c'est l'émotion et la culpabilité dans ton corps et sable à toi. Puis ce que j'aime avec ce corps et sable-là, c'est que ça enlève un peu de la menace à l'ego. Quand tu commences à dire que les gens ils font quelque chose à cause de comment ils sont dans leur corps et sable à eux et non pas à cause de comment moi je suis dans mon corps et sable, ça enlève la menace à l'ego. Le gars qui me coupe le matin sur le pont quand je m'en viens travailler, il ne fait pas contre moi, il fait pour lui. Et là, je peux être un peu plus compassionné, je peux être un peu plus tolérant. C'est sûr qu'il ne fait pas « Sébastien Guy, je l'ai, il m'a le poussé en bas du pont en le coupant en char, tu sais. » Mais non, lui, il est pressé d'arriver à la job, puis des fois, c'est moi qui est pressé. J'essaie de pas faire ça, mais des fois, on calcule mal nos trucs, tu sais. Fait que les gens, ils font pas des choses contre nous, ils font des choses pour eux, à moins d'être fondamentalement méchants. Ça, déjà là, je trouve que ça enlève un peu... C'est une façon de voir simple qui enlève de la menace à l'ego.
C'est super intéressant. On aurait pu encore là, d'ailleurs, c'est ce que tu fais souvent dans les formations, prendre davantage un 2 heures qu'une heure. Si j'ai le goût d'en savoir plus, peut-être on peut renommer les livres de Sonia Lupien, les sites web où on peut aller trouver davantage d'informations puis creuser sur le sujet.
Tout à fait. Donc, Par amour du stress, deuxième édition, qui est une refonte, qui n'est pas juste une amélioration du premier, c'est vraiment bien fait, c'est coup de cœur. Là, son deuxième livre qui est sorti l'année dernière, qui est à chacun son stress, très intéressant aussi, entre autres, plein de différences au niveau des sexes, du rôle des parents, de comment on transmet un peu notre stress aux enfants, c'est fascinant. Sinon, il y a toujours les classiques où on est plus dans l'anxiété, la peur d'avoir peur, où on est plus sur le traitement de l'incertitude et des attaques de panique. Arrêtez de vous faire du souci pour tout et pour rien, qui est plus la vulgarisation d'un traitement pour les inquiétudes. Le piège du bonheur. Donc, arrêtez. L'art subtil de s'en foutre. J'ai bien aimé aussi où il ramasse un peu tout ça puis nous amène ça simplement. Donc, voilà plein de lectures là, pour le temps des fêtes.
Donc, n'ayez pas peur, vous pouvez retourner dans la section balado showreel de mixlr.com pour réentendre puis réécouter les propositions de lecture. Vous pouvez taper Sonia Lupien sur Google aussi, vous allez trouver facilement parce qu'elle est quand même très, très active. Sébastien, merci de cette période de vulgarisation. Ça a été vraiment intéressant et assurément pertinent. Pas juste pour la période d'examen, pour chaque jour de notre vie, réussir à accepter une réalité que l'on vit, puis à ajuster notre réalité peut-être davantage à la réalité, plutôt que de la laisser, elle, s'ajuster à nous. Un grand merci. Bonne fin de session à toi.
Merci. Ben, merci de ton invitation. Merci aux gens qui écoutent. N'importe quoi, si jamais il y a une autre demande ou si on peut pousser dans une autre direction sur le stress, je vais être là.
Avec un grand plaisir. Merci d'avoir suivi.